Oui, bonjour à tout le monde, monsieur le professeur, mesdames et messieurs, les représentants de l'Université de Savoie, chers enseignants, les siens. Je voudrais tout d'abord vous dire que je suis très honorée, très heureuse d'être là aujourd'hui parmi vous pour vous présenter un très beau thème que je vais traiter devant vous, de la psychologie, la neuropsychologie expérimentale, qui est le thème des interrelations entre le cerveau, le langage et le sens. Ce thème me donnera l'occasion de vous présenter certaines méthodes de recherche utilisées en psychologie, et en particulier en psychologie scientifique, et également de vous présenter la pluridisciplinarité de notre domaine qui est la psychologie. Donc la psychologie elle-même est un domaine extrêmement complexe, mais les psychologues également vont travailler pour les différents thèmes qu'ils vont traiter avec plusieurs autres scientifiques et chercheurs représentant d'autres disciplines. Par exemple, ici, vous avez les représentants des neurosciences, la sociologie, la science de l'éducation, la médecine, la biologie, la philosophie et, pour notre propos, les sciences de langage et la linguistique. Donc, ceci montre que le domaine de la psychologie se situe dans un carrefour pluridisciplinaire que nous souhaitons défendre aujourd'hui et que certains d'entre vous peut-être vont découvrir dans leur futur cursus, et nous aurons le plaisir certainement de vous accueillir dans la filière de psychologie à l'Université de Nice Sophia Antipolis. Je vais tout d'abord commencer par dire que la complexité des processus de développement, comme la complexité des processus de langage dont je vais vous parler aujourd'hui, est toujours tissé par la conjonction de trois grands facteurs. Le développement cérébral, le développement des processus cognitifs, des processus de raisonnement, de la mémoire, de l'attention, qui vont se développer au cours du développement, et des processus émotionnels, mais également aussi par l'influence de l'environnement. C'est la conjonction de ces trois facteurs qui vont rentrer en jeu pour expliquer la complexité de notre évolution. Le cerveau, par exemple, notre organe sens, va également évoluer sous un principe par une évolution génétique et également va être soumis à l'influence de l'environnement psychologique, social et culturel. Le cerveau possède une organisation structurelle et fonctionnelle qui est programmée mais malléable. Donc, je vous rappelle ici les principaux éléments qui permettent de transmettre, de coder et de transmettre l'information nerveuse qui sont les neurones. Notre cerveau possède aux environs de 100 milliards de cellules nerveuses. Donc vous imaginez la grande complexité. Et ces transmissions de ces informations nerveuses vont se faire à travers l'établissement de connexions entre les différentes neurones qui s'établissent dans un large réseau qui s'appelle, ces connexions s'appellent les synapses. Et on estime aujourd'hui qu'on a 1 000 000 000 de milliards de synapses. Donc là, on a l'unité aussi de la grande diversité de ces connexions. Sachant que ces connexions peuvent s'établir par voisinage à très courte distance, mais aussi à très très longue distance. Concernant l'architecture macroscopique du cerveau, je vous rappelle aussi quelques éléments essentiels, notamment la division entre les deux hémisphères cérébraux. L'évolution de différentes lobes cérébraux, il y a 4 lobes externes, qui eux aussi vont avoir un rythme de construction différent au cours du développement. Par exemple, on sait que le cortex auditif primaire est déjà situé quelque part ici, qui est déjà fonctionnel dès le 8e mois de la grossesse, donc le bébé à partir de 20e semaine à peu près entend déjà le langage, la parole autour de lui. Ce qui va avoir des conséquences fonctionnelles, on va donner plusieurs exemples avec les capacités linguistiques précoces des bébés. Le cortex occipital, ici, qui va se tendre largement notre vision, les fonctions de vision, va se développer de manière fulgurante après la naissance. En revanche, le lobe frontal, par exemple, qui a connu une grande extension chez l'homme, ne va pas être encore mature avant l'adolescence. Et donc ce schéma représente quelques structures internes. Ce qui est important aussi à souligner, c'est que les différentes structures cérébrales vont communiquer entre elles par des grandes fibres blanches qui vont connecter donc ces différentes structures. On voit ici par cette représentation l'évolution des arborescences, les connexions qui vont établir des neurones dans le cortex d'un bébé nouveau-né. Et on voit comment ces connexions vont se densifier de manière plus courante après, dans les premiers mois de la naissance. Et après, certaines de ces connexions vont être éliminées et stabilisées. C'est ce processus d'augmentation des connexions synaptiques, d'élimination des connexions et de stabilisation des connexions se fait aussi sous l'influence des différents apprentissages du bébé. Donc il est fortement influencé par l'environnement. Et on voit ici par ce deuxième schéma que les principaux voies de connexion entre les différentes structures cérébrales sont déjà pré-câblées, sont déjà là, mises en place chez le bébé après la naissance. Donc le message important à retenir ici, c'est que l'usage et l'influence de l'environnement, c'est l'usage et l'influence de l'environnement sur tous les systèmes sensoriels, modifie donc pour chaque individu la construction de ses représentations au niveau du système nerveux central. Et que le cerveau est capable d'engrammer, de mémoriser une histoire individuelle, affective, sensorielle et l'histoire de nos stimulations par les milieux. Alors, c'est grâce justement à ces structures cérébrales vont aussi se tendre, donc la question de langage chez l'enfant, et comme je l'ai dit en introduction, c'est que le langage aussi, et son développement, l'acquisition et son développement va s'opérer suivant la triple articulation entre le développement cérébral, le développement des cognitions et des émotions, et l'influence de l'environnement. Et c'est au fur et à mesure de ces apprentissages que le bébé va s'approprier, si vous voulez, le langage de sa culture. Puisque, comme le dit ici le fondateur de la linguistique, le Ferdinand de Saussure, la langue est une convention sociale. C'est l'ensemble des conventions qui sont nécessaires à adopter par le corps social pour permettre l'exercice de la faculté de langage. Donc, la langue est une faculté et la langue est une convention sociale. Par des associations ratifiées par le consentement collectif et, comme on dit encore, c'est une source d'emprunt déposée dans chaque cerveau. Mais à la différence du langage, la parole va être une faculté individuelle que chaque individu par laquelle chaque individu va réaliser sa propre faculté de langage au moyen de la convention sociale qui est la langue. Et le troisième élément, c'est que la faculté de langage est propre à l'espèce. Le langage est la faculté dont disposent donc les hommes pour communiquer entre eux. Ce sont des éléments qui vont permettre d'introduire un petit peu notre propos. Et un autre élément important à retenir, c'est que la langue est un système de signes centré sur le mot. Et le signe est une entité psychique de deux faces, me disait Ferdinand de Saussure. C'est double face en fait des signes, c'est le signifiant, qui est l'image acoustique ou l'empreinte psychologique du son, et le signifié, qui est le concept qui est désigné, la représentation de la connaissance que le sujet a de l'objet. Et donc ce lien entre les deux, entre l'image acoustique du son et le concept qui est représenté, est purement arbitraire, et donc le résultat de la convention sociale. Et la dissémination, la mise en rapport entre les deux faces du signe, va s'effectuer au fur et à mesure au cours de l'apprentissage. Mais il est important aussi de savoir que la valeur d'un signe est déterminée par ce qui l'entoure, donc par les relations avec les autres signes, dans le temps et dans l'espace. Et en faisant un raccourci fil, on pourra dire que le sens est un tissage de relations, justement, entre ces signes. Afin d'introduire davantage la notion de cette mise en relation, je voudrais introduire ici une autre distinction qui est celle entre la signification et le sens, qui est une très belle distinction autour de laquelle, évidemment, beaucoup de philosophes, de linguistes, de psychologues s'interrogent. Donc c'est une notion extrêmement complexe. Moi, je vais retenir que quelques distinctions principales qui vont être nécessaires à notre propos. Donc tout d'abord, la distinction entre la signification qui est selon donc Nicolas Bouzet, qui est le premier à introduire cette distinction, et le sens propre ou le sens primitif du mot, et le sens va correspondre plutôt aux différentes acceptions du mot lorsqu'il est inscrit dans un discours, dans un contexte de communication ou dans la bouche d'un locuteur particulier. Et en fait, on peut comprendre ici le passage entre les deux notions qu'on veut illustrer avec le mot sandwich. Par exemple, vous savez tous ce que ça veut dire un sandwich. Et vous avez déjà, lorsque vous entendez l'image acoustique, sandwich, vous avez déjà activé une représentation d'un concept auquel dans votre mémoire, il y a un sandwich que vous mangez. Et chacun d'entre vous va se représenter peut-être un sandwich particulier. Mais si, par exemple, je vous dis la phrase « je mange un sandwich », évidemment, on va tous représenter le concept général de sandwich, même si pour chacun, la représentation de sandwich va être différente. Mais si je vous dis une deuxième phrase, veux-tu apporter l'addition au sandwich au beurre? Là, on voit bien ici que le mot sandwich n'a pas du tout la même signification. Là, ici, le sandwich ne représente plus un sandwich, mais plutôt une personne, qu'on va désigner ici par métonymie, avec le mot de sandwich. Et si je vous dis, j'ai à la tête un sandwich aujourd'hui, donc là, vous voyez, le mot va prendre tout à fait une autre signification dans le contexte de la communication. Donc, on voit bien ici que il y a le sens, la signification des mots, mais le sens va émerger par une mise en relation entre les différentes acceptions du mot, mais aussi de leur mise en contexte, dans le contexte de la communication. Il faut beaucoup traiter ce contexte de la communication, le contexte linguistique immédiat de la phrase, le contexte général de la communication, mais aussi il faut se représenter le vouloir dire de l'interlocuteur. Qu'est-ce que l'autre veut dire dans ce mot, dans cette phrase? Sur l'idée que tout établissement du sens va reposer sur un tissage de relations effectives dans un ensemble de relations possibles. Donc le sens est une mise en contexte, une mise en réseau d'informations et de significations et de connaissances. Donc ça c'est la définition que j'utilise, que j'ai empruntée à Jean-Pierre Pape. Alors il y a un domaine de la linguistique qui s'appelle la sémantique qui va prendre pour l'objet d'étude le sens et les interprétations des unités significatives de la langue et de leur combinaison dans le discours. Dans ce sens, on va parler de la sémantique lexicale, par exemple, la sémantique des mots, la sémantique des phrases, et la sémantique dans le texte, par exemple. La pragmatique va être un domaine pluridisciplinaire des sciences de langage qui, elle, va s'intéresser à l'usage de langage par les locuteurs dans un contexte de communication. C'est comment le langage est utilisé dans un contexte d'utilisation, mais ce que les philosophes vont appeler les actes de langage. Dans ce sens, le langage est un acte. Et par ce qui est signifié par le langage verbal, au-delà de ce que les mots veulent signifier littéralement, comme on a vu par les exemples précédents, que le sens d'une phrase dépasse largement le sens qui est codé, qui est donné par les mots individuels de la phrase. Alors, comment on va s'approprier en psychologie de ces notions-là, qui sont des notions scientifiques, philosophiques, linguistiques? En non-psychologie du langage, on va se servir de toutes ces connaissances sur le langage et on va s'intéresser à la particularité des étapes, des processus et des différents mécanismes cognitifs qui sous-tendent l'activité du langage. On va analyser donc quelles sont ces étapes, ces processus, ces mécanismes, quelles sont les contraintes qui s'exercent sur le système cognitif pour comprendre le langage, mais également on va faire le lien entre ces fonctions cognitives qui se tendent au langage avec un comportement particulier, par exemple le comportement du langage en situation de communication, une activité qui peut être par exemple l'activité de lecture, et donc cette mise en lien entre les processus cognitifs et le comportement d'une activité, va s'intéresser au lien qui existe dans un comportement aussi bien normal qu'un certain dysfonctionnement ou contrainte de fonctionnement normal. Et cette mise en lien va s'opérer aussi avec le fonctionnement cérébral. Et c'est par là qu'on va essayer de réaliser cette triple articulation entre un comportement et une activité qu'on utilise naturellement dans la vie quotidienne, les étapes et les processus et mécanismes cognitifs qui sous-tendent cette activité et le fonctionnement cérébral. Alors, quelle est cette complexité des processus de langage? Par exemple, si je vous dis la phrase « Il y a un lapin dans le jardin ». Donc, vous voyez ici, il y a l'aspectogramme de la phrase. Donc, tout d'abord, on doit vous mettez en jeu une perception auditive de la phrase. Vous faites un traitement phonétique, une analyse phonologique en assemblage, les différents phonèmes de chaque mot. Vous allez segmenter, vous allez extraire les mots individuels à partir de flux de paroles. Et vous allez reconnaître les mots individuels qui composent cette phrase. Vous allez accéder au lexique, qui est une sorte de dictionnaire mental dans lequel sont stockées les représentations de mots. Vous allez traiter aussi la structure grammaticale de la phrase, le traitement du contenu propositionnel, les mots, dans comment ils s'enchaînent dans la phrase. Et vous allez aussi, pour comprendre le sens, traiter le contexte de la communication, le contexte linguistique et médial, le contexte général de la communication, et vous allez accéder aux représentations mentales de locuteur. Donc vous imaginez toute la complexité et les différentes étapes de toutes les opérations mentales que vous êtes en train de faire à chaque instant sans vous rendre compte lorsque vous comprenez le langage, lorsque vous traitez le langage. Alors, quels sont les moyens d'étude que nous avons en psychologie pour étudier les processus de langage? Donc, nous utilisons des situations expérimentales, et là, toute l'ingéniosité des chercheurs en psychologie, c'est de trouver des bonnes situations expérimentales qui correspondent bien à l'activité qui nous intéresse, telle qu'elle est mise en jeu dans la communication naturelle, par exemple, de contraster les conditions très très fines qui permettent d'étudier ces différentes étapes des processus de langage. Donc on va essayer de les modéliser les différents processus cognitifs d'un langage, comment ils s'enchaînent, comment ils se réalisent, et donc utilisant les différentes techniques d'imagerie cérébrale par exemple, nous allons avoir accès à une observation du cerveau en action pour voir comment ces différentes opérations se réalisent dans le cerveau. Et donc là, maintenant, je vais vous présenter justement ce lien qui a été fait par la neuropsychologie cognitive, mais également par l'apport des études en neurologie, du lien existant entre le cerveau et le langage. Donc la première mise en lien entre une fonction, le langage, et un centre, une aire de langage dans le cerveau, a été peut-être une des premières démonstrations, était celle de Paul Broca, qui est un médecin neurologue français, qui en 1861 a observé le cerveau d'un de ses patients qui s'appelait Monsieur Le Borne. Monsieur Le Borne ne prononçait que la syllabe TAM. Donc l'histoire a retenu de Monsieur Le Borne donc le cas de Monsieur TAM. Donc ce monsieur ne pouvait plus parler ni exprimer sa pensée par écrit. En revanche, il pouvait conserver une bonne compréhension générale de ce qu'il entendait. Cependant, la seule chose qu'il pouvait prononcer, c'est « temps, temps, temps ». Donc, lorsqu'il a examiné le cerveau de M. Temps, Paul Broca a découvert qu'il avait une lésion ici, dans une partie particulière du cerveau, qui s'appelle le cortex frontal inférieur gauche, et qui, donc, perturbait, qu'il avait fait l'hypothèse que cette lésion avait un lien de causalité avec cette difficulté de production de langage. Et donc c'est peut-être le premier lien fonctionnel qui a été établi, donc comme on a dit, entre une fonction du langage impliquée dans la production et une région cérébrale précise. Et donc aujourd'hui, on appelle cette partie donc de cette aire du cerveau qui est impliquée dans la production du langage, l'aire de Broca. 10 ans plus tard, un autre neurologue, Carl Wernicke, va aussi, en examinant le cerveau d'un de ses patients, faire le lien entre une aire cérébrale et donc une partie postérieure de lobe temporal gauche et la faculté de compréhension du langage. Donc on voit ici que cette partie, donc il y avait une grande lésion située dans la partie postérieure du lobe temporal gauche chez ce patient qui pourrait parler mais qui avait beaucoup de troubles de la compréhension du langage, et lorsqu'il parlait, son discours était incompréhensible et incohérent, comme s'il avait perdu cette capacité d'organiser en quelque sorte les mots pour exprimer sa pensée. Alors, aujourd'hui, par la conjonction des études lésionnelles et des études menées à l'imagerie cérébrale, on a montré l'importance d'une autre région cérébrale, le lobe pariétal inférieur, qu'on appelle aujourd'hui le territoire de Kerkeschmin, qui on sait qu'est une zone d'intégration multimodale qui va être impliquée dans le traitement du sens abstrait, la représentation abstraite des mots. Donc il y a plusieurs autres exemples qui peuvent être donnés de plusieurs neurologues éminents qui ont contribué à étudier les différentes zones de langage. Que je ne vais pas détailler ici, c'est juste pour vous illustrer le lien, la première mise en évidence d'un lien entre certaines aires cérébrales et les fonctions du langage. Évidemment, c'est aujourd'hui, grâce aux différentes méthodes d'imagerie cérébrale, on va pouvoir visualiser justement les activations, indirectement, les activations au niveau cérébral qui se réalisent au cours de différentes activités langagières. Et donc là, ici, on a une représentation, une image historique, celle de Petersen, qui, pour la première fois, a montré les aires cérébrales de langage par la caméra à positron. Donc là, par exemple, ces différentes activations sont suscitées lorsque donc, les sujets, les participants à une expérience, doivent effectuer différentes tâches, différents exercices, par exemple. Dans la première, ici, la première image, vous avez, les sujets devaient juste écouter des mots. Et on voit ici que lorsqu'on écoute des mots, on va activer la région, une région cérébrale, qui est la région temporale supérieure. En revanche, lorsqu'on va lire les mots, on a mis en évidence ici que la lecture même va activer des représentations de la reconnaissance visuelle des mots dans la partie arrière donc de l'hémisphère gauche, la jonction par exemple ici occipito-temporale ventrale et une activation de la région occipitale qui vont être liées à la vision des mots. Mais on sait que par exemple cette région occipito-temporale ventrale est extrêmement importante pour la lecture, pour celle qui se tend en quelque sorte les premières étapes de la lecture. Dans une tâche de production des mots, on a l'activation ici de la région précentrale et l'aire motrice, qui est l'aire de Broca comme on a vu tout à l'heure. Et dans une tâche d'association de mots, on va plutôt activer, donc il y a déjà une tâche beaucoup plus complexe d'associer des mots par leur signification, une autre région qui est la région frontale inférieure gauche. Et donc grâce à ce type de recherche et leur transposition sur des modélisations des processus de lecture, des processus de compréhension du langage, des chercheurs, aujourd'hui par exemple, je pourrais citer Stanislas Zelen, dont je vous recommande l'image du neurone de la lecture, par exemple, qui a pu établir un modèle aussi bien neuronal que psychologique de la capacité de lecture par la mise en lien des données qui proviennent donc de la psychologie des neurosciences. Donc là, par exemple, vous voyez que le réseau vert, ici, va être, sont des différentes régions hein, qui vont être activés dans le processus de compréhension de sens. Le réseau ici aux branches va sous-tendre l'accès à la prononciation et à l'articulation des mots. Et vous avez donc toujours la première étape, la région temporale ventrale qui va s'activer lorsqu'on va voir donc les mots, et celle qui va envoyer des informations, il y aura une propagation des informations en fonction du type de l'activité de langage effectuée. Il n'y aura pas le même type de réseau hein, de langage qui va être sollicité. Et les différents types, par exemple, de difficultés de lecture, hein, qui peuvent avoir de compréhension, lorsqu'il n'y a pas, ne sont pas sous-tendus par une lésion cérébrale, peut notamment être expliqué par une difficulté de connexion, de connectivité entre ces différents relais de transmission de l'information, ces différents relais dans lesquels est traitée l'information. Alors, une autre découverte qui mérite d'être, en fait, l'image n'est pas elle-même hein, une découverte, mais c'est une image qui souligne hein, une chose très très importante pour le langage, c'est la spécialisation de l'hémisphère gauche pour le langage, qui est démontrée par les études visuelles de la neurologie et par les études d'imagerie cérébrale. Donc, on voit ici une activation qui est suscité par un tâche de jugement du sens, c'est-à-dire que les gens doivent juger quel est le sens des mots hein, qu'ils entendent, et on va contraster ces tâches à une tâche de jugement d'une séquence de sons. Et on va voir qu'on observe une activation donc, de l'aire de Broca, des aires temporales et pariétales postérieures, lorsque on va effectuer un jugement du sens, mais cette activation se fait de manière préférentielle dans l'hémisphère gauche. Donc on voit par contraste l'activation dans l'hémisphère droit. Alors, ce qu'on a observé aussi par ce type d'observation du cerveau en action, en cours de tâches de compréhension de langage, c'est que chez des sujets, des personnes bilingues tardives qui ont appris tardivement une langue étrangère, la production de mots dans la langue maternelle, comparée à la production de mots dans la langue étrangère, suscite des activations de l'aire de Broca dans deux zones différentes. Donc, rappelez-vous, cette aire de Broca était cette zone qui sous-tendait la production de langage. Alors, c'est en fait très très intéressant, c'est que lorsqu'on a appris même parfaitement une langue étrangère, très tardivement dans une échelle développementale, peut-être au-delà de 12, 13, 14 ans, alors les spécialistes sont partagés sur la notion de l'existence d'âge critique, hein, en quelque sorte, mais en tout cas, on voit que ces personnes vont avoir, en quelque sorte, deux aires de Broca, hein, c'est-à-dire qu'ils vont activer chacune d'eux, hein, chacune d'eux va être spécialisée dans une langue particulière. Donc là, ici en particulier, c'était une étude qui avait comparé des bilingues qui avaient comme langue maternelle l'anglais, la seconde langue le français. En revanche, lorsqu'on compare des bilingues précoces, hein, peut-être certains d'entre vous ont été exposés à plusieurs langues dès leur plus jeune âge, hein, sachez que vous, ceux parmi vous qui sont des bilingues très très précoces, vont avoir une activation superposée de l'air de Broca. C'est-à-dire que la production de mots dans une langue maternelle et dans une autre langue, apprise précocement, va susciter le même type d'activation de l'air de Broca. Donc c'est la même zone de langage qui va coder, hein, en quelque sorte, la représentation, en fait, qui va vous permettre de produire le langage dans les deux langues. Alors, ce qui est intéressant, lorsqu'on va appliquer des méthodes d'imagerie cérébrale chez le bébé très très jeune, et on va, par exemple, lui présenter, dès la naissance, on présente au bébé des phrases qui sont présentées dans leur langue maternelle, qu'on va contraster aussi avec des phrases d'une autre langue. Ce que les chercheurs ont observé ici, que lorsqu'ils écoutent leur langue maternelle, les bébés vont activer immédiatement certaines régions cérébrales, notamment l'aire de Broca, associée, traditionnellement associée à la production de la parole, au traitement de la grammaire par exemple, alors que les bébés qui ne savent pas encore parler ni babiller vont avoir l'activation de cette zone lorsqu'ils écoutent leur langue maternelle. Et un fait intéressant est que ces activations au cours de l'écoute de langage chez le bébé sont déjà matérialisées dans l'hémisphère gauche. Hein, donc on voit ici par ces illustrations que c'est l'hémisphère gauche, l'hémisphère du langage, le membre du langage, qui va aussi s'activer, alors que les bébés dès la naissance ne comprennent pas encore le sens du mot, n'ont pas une représentation élaborée du langage. Mais ces observations du cerveau en action chez les bébés montrent que les régions cérébrales sont biaisées génétiquement à s'interconnecter de manière très précoce. Qu'est-ce qui se passe ? De très précoce, un réseau qui facilite l'apprentissage de la lecture. Donc, on était à la question du cerveau des bébés, le cerveau en action des bébés. On avait vu que lorsque les bébés, avant de savoir parler ou même babiller, ils activent déjà certains zones de langage observées chez l'adulte, notamment l'air du bronca, et aussi cette activation est latéralisée déjà dans l'air, ce qui sera l'hémisphère dominant pour le langage chez l'adulte, l'hémisphère gauche. Et que ces observations montrent que ces régions cérébrales sont biaisées génétiquement à commander, hein, si vous voulez, génétiquement, à s'interconnecter précocement, à s'établir en réseau, et c'est ce qui va faciliter l'apprentissage du langage chez l'enfant. Et c'est donc ces pré-câblages existants vont devenir le support de l'apprentissage du langage, et ils vont se spécialiser progressivement sous l'influence de la langue maternelle et vont évaluer au fur et à mesure avec l'apprentissage du langage par l'enfant. Et donc, évidemment, puisque c'est par l'apprentissage qui se fait la maîtrise du langage chez l'enfant et non pas seulement tous les pas armés expliqués par les retours. Alors, maintenant, dans la partie suivante de mon exposé, je vais essayer d'articuler ces trois domaines dont on a parlé, le cerveau, le langage et le sens. Et donc, on va essayer d'illustrer leur dynamique interactive par l'exploration de l'observation par certaines techniques d'imagerie cérébrale qui vont pouvoir explorer le fonctionnement cérébral en temps réel. Puisque, comme on a vu, les processus de langage sont extrêmement impliqués, rapides, et pour les observer, il nous faut, pour observer quelles sont les différentes contraintes qui s'imposent à l'émergence du sens et comment le cerveau va détecter les différents indices qui vont lui permettre l'émergence de sens, on a besoin de techniques qui ont une bonne résolution temporelle, c'est-à-dire qui sont capables de détecter l'activité cérébrale en quelques millisecondes après la présentation d'un mot, par exemple, ou d'un stimulus quelconque. Et donc là, je vais appuyer cette illustration des études qui sont menées par une méthode qu'on appelle la méthode de potentiel logique cognitif, qui est une méthode non-invasive, qui est issue de l'électroencéphalographie et qui permet d'enregistrer l'activité électrique cérébrale au moyen d'électrodes placées sur la surface de la tête. Donc le signal de l'électroencéphalogramme résulte presque exclusivement de l'activité de la membrane des dendrites et du corps des cellules nerveuses. Et elle a été, cette méthode, en fait, de G, a été une des découvertes majeures et effectuée par Hans Berger, qui était un psychiatre allemand, qui a découvert pour la première fois, en découvrant un rythme spécifique qu'on appelle le rythme alpha, le lien existant entre la fréquence et l'amplitude de certaines ondes électroencéphalogramme, en lien avec l'activité du sujet. Et donc, vous voyez ici un dispositif, par exemple, d'enregistrement de cet électroencéphalogramme qui permet l'extraction de certains signaux cérébraux qui sont spécifiquement strictement lié à ce qu'on fait. Donc je vais vous expliquer. Là, par exemple, ici, on a un signal qu'on va enregistrer qui correspond à un potentiel évoqué auditif. Par exemple, là, vous êtes en train de m'écouter. Si je vous fais un clic avec mon doigt, votre cerveau a tout de suite repéré le clic. Donc, à quelques dizaines de secondes, millisecondes de la perception de ce clic, tout de suite, hein, je vais avoir sur mon électroencéphalogramme une petite onde qui va signaler que vous avez détecté cette stimulation. Si, par exemple, je vous présente deux clics différents, par exemple, vous allez tout de suite aussi coder, votre cerveau va détecter ce clic. Mais si je vous demande de porter votre attention que sur le premier type de clic, et je répète, au fur et à mesure de mon exposé, le premier clic et le deuxième clic, vous allez voir que vous allez, par le fait que vous allez porter une attention très très différente, hein, ces deux sons, hein, par exemple, pour répondre à la consigne hein, de la tâche qui va être demandée, vous n'allez pas du tout avoir le même type, donc le même type d'amplitude hein, de cette onde. Et donc par le contraste entre les deux ondes cérébrales, hein, on va voir est-ce que vous avez su distinguer les deux types de stimulation qui a été présenté. Donc en fait, on va s'intéresser sur les amplitudes de ces ondes, leur latence, le temps de l'apparition. Est-ce que cette détection de stimulus de changement se fait immédiatement, très très rapidement, dans les quelques dizaines de millisecondes, ou prend beaucoup plus de temps pour être élaboré, hein, traité en association avec les autres informations. Et aussi la distribution topographique sur le scalp hein, de ces ondes, ça veut dire qu'elles sont très grossièrement leur représentation spatiale au niveau du cerveau. Même si il faut quand même souligner que cette méthode a une très très mauvaise résolution spatiale en quelque sorte, et on n'est jamais vraiment sûr de quelle source proviennent particulièrement les ondes hein, de l'électroencéphalogramme, puisqu'il résulte en fait de l'activité synchronisée de plusieurs populations de cellules qui vont agir ensemble. Alors pour se représenter hein, cette activité synchronisée de ces plusieurs cellules, on peut utiliser comme ça on peut dire qu'un groupe qui se rassemble s'assemble. Donc on sait que les neurones qui sont en quelque sorte impliqués dans le même type dans le traitement d'un type d'information particulier vont synchroniser leur activité. Donc en fait, à la surface du crâne, on va avoir que le résultant, la somme hein, de cette activation. Et c'est grâce à cette méthode hein, extrêmement sensible au discours temporel hein, de l'évolution des informations du traitement des informations sémantiques par le cerveau hein, et par les personnes, hein, on a pu constater par exemple que dès les premiers jours après la naissance, les bébés peuvent discriminer déjà des contrastes linguistiques. Par exemple, si vous les sensibilisez avec une syllabe, par exemple, pas, et si après vous leur présentez la syllabe ta, tout de suite ils vont détecter ce changement. Donc on le voit ici par exemple par la différence d'amplitude entre les deux ondes hein, cérébrales qui vont être suscitées par la perception de ces syllabes. Donc ça montre déjà que les bébés dès la naissance ont déjà des compétences linguistiques hein, élémentaires, hein, mais très très précoces à traiter certains patterns linguistiques. Et ce qu'on sait aussi hein, par d'autres études qui ne sont pas réalisées par l'imagerie cérébrale mais par d'autres méthodes utilisées en psychologie expérimentale, c'est que dès les premiers jours de la naissance, les bébés portent une attention toute particulière à la prosodie, donc la mélodie, de leur langue maternelle. Et donc, si on leur présente par exemple des phrases prononcées en chinois et des phrases prononcées en français, tout de suite, ils savent les distinguer. Donc, ils vont manifester un comportement ici, qu'on appelle le succion non intuitif. Hein, ils vont, je peux revenir sur ces méthodes dans la discussion si vous le souhaitez. C'était juste pour vous illustrer que, certaines mesures hein, qu'on peut effectuer sur le comportement du bébé, on va voir qu'ils distinguent dès la naissance les patterns, la structure mélodique et rythmique de sa langue maternelle par rapport à une langue étrangère. Évidemment, les bébés ne connaissent pas le chinois à la naissance, hein, mais ils vont être habités justement par la perception de certaines propriétés rythmiques, certaines caractéristiques rythmiques qui sont propres à leur langue à eux. Par exemple, ici, on sait que les bébés ne vont pas distinguer dès la naissance le français et l'espagnol, par exemple, puisque le français et l'espagnol font partie du même groupe de langues, du même groupe rythmique. Hein. Par contre, ils vont distinguer le français et l'anglais. Et c'est grâce à l'utilisation par les bébés de ces indices mélodiques et rythmiques, caractéristiques de leur langue maternelle, que les bébés vont apprendre à segmenter la parole en mots avant de savoir parler et avant de connaître le sens des mots. Quel est le problème de la segmentation de la parole? C'est que la parole, hein, telle que vous l'entendez, c'est un flux continu, hein, de parole. Il n'y a pas de frontière, hein, à la différence d'un texte écrit. Il n'y a rien qui indique où commence ou où se termine le mot. Donc il faut qu'on sache utiliser des repères. Alors un adulte utilise aussi son lexique, la connaissance des mots, pour extraire des mots, mais le bébé qui n'a pas encore de vocabulaire, hein, quel indice utilise-t-il pour extraire déjà des mots, pour comprendre que dans son flux qui est de sonore qu'il entend, il y a des mots, il y a des unités qui vont plus tard, hein, porter, véhiculer une signification. Et donc, on sait que c'est notamment ces propriétés rythmiques, par exemple la syllabe, hein, la détection de la syllabe, et certains autres indices, hein, qu'on appelle par des noms un peu savants, hein, que le bébé va utiliser pour extraire les mots à partir de discours. Et que cette activité va se faire entre 6 et 8 mois chez des bébés qui ont comme langue maternelle une langue à accent tonique, hein, par exemple en anglais, en allemand et en hollandais, où la plupart des mots sont accentués au début. Par exemple, en anglais, on peut dire docteur, évidemment je ne suis pas de langue maternelle anglaise, donc je ne pourrais pas le faire comme en anglais, mais il y a une accentuation toujours au début des mots. Donc le bébé va capter en quelque sorte cette accentuation et va savoir que là, cette accentuation indique qu'il a déjà des mots, hein, qui plus tard il va commencer à comprendre. Alors qu'en français, il n'y a pas d'accentuation au début, il n'y a pas d'accentuation tonique, et donc c'est pour ça que l'enfant va apprendre à segmenter la parole un peu plus tard, hein, entre 2 et 16 mois, ce que nous avons montré avec M. Thierry et M. CNRS à l'Université de Paris 5. Alors, cette segmentation de la parole à mots est une étape essentielle à l'acquisition de langage et à l'acquisition surtout des premiers mots aussi. On sait que, par exemple, il existe une très forte corrélation entre la capacité de segmenter la parole à mots et la rapidité du développement du vocabulaire chez les enfants. On voit, par exemple, ici, par cette méthode que vous pensez évoquer, que les enfants de 10 mois qui ne possèdent pas encore de vocabulaire pour mémoriser et reconnaître un mot lorsqu'il est inséré dans une phrase. Par exemple, il y a un bébé qui ne connaît pas encore les mots, vous lui présentez un mot, par exemple, soleil, soleil, vous le sensibilisez avec ce mot, et après, vous insérez ce mot dans un flux de paroles. Et lorsque l'enfant va entendre des phrases qui contiennent ce mot, soleil, le mot familiarisé, et des phrases qui ne contiennent pas ce mot, tout de suite, on voit bien que l'onde qu'on va réduire, qui va être associée à ces mots individuels dans la phrase, va être très différente. Ce qui montre que l'enfant sait déjà extraire, grâce à la mémoire qu'il va avoir de ce mot qu'on vient de lui apprendre, il va savoir, ça va l'aider, hein, cette mémorisation va l'aider à extraire les mots à partir des phrases. Alors que c'est grâce à ces capacités déjà linguistiques très précoces et par l'interaction avec les personnes de son entourage que l'enfant va très progressivement acquérir la capacité à mettre en correspondance un son et un mot, hein, dont on a vu le lien arbitraire. Et donc, par exemple, vers l'âge de 14 mois, où vont commencer déjà à être associés à l'émergence de vocabulaire, que les enfants sont très étonnés lorsque on leur présente une image, par exemple l'image d'un petit canard ici, et on ne dit pas le mot canard. Donc ça veut dire qu'ils ont déjà appris à faire l'association entre l'image et le son. Donc si vous leur dites canard et soleil, tout de de suite, vous voyez ici que la perception de cette incongruité est indiquée par une onde ici négative, hein, négativité en haut, qui va survenir à 400 millisecondes après la présentation des mots. Donc, vous imaginez la rapidité avec laquelle ils vont traiter, vont percevoir cette incongruité sémantique. C'est que ça, c'est les premiers, en quelque sorte, de représentation sémantique, hein, des premiers concepts, la mémoire des concepts que l'enfant va développer. Et c'est ainsi qu'il va construire, en quelque sorte, le vocabulaire de sa langue, hein, et ce qu'en psychologie, on va appeler le lexique mental. Alors, une représentation ici, par de nombreuses années de recherche, on sait maintenant quelle est la structure. Hein, on a ici une modélisation, une représentation de la structure du lexique, hein, de ce réseau sémantique dans lequel sont codés, en quelque sorte, les mots, hein, de vocabulaire. Par exemple, on sait que les mots vont être associés, hein, par leur sens, par exemple, mais aussi par d'autres dimensions. On a ici une représentation de liens sémantiques. Par exemple, si vous entendez le mot incendie, vous ne le savez pas, mais vous activez déjà votre réseau sémantique, une activation qui correspond aux différentes significations proches, hein, de ce mot. Par exemple, vous avez activé le mot camion, le mot pompier, le mot feu, etc. Et d'autres mots qui ont un champ sémantique beaucoup plus lointain ne vont pas être activés. Et donc, là, ici, on a une représentation de la propagation de l'activation au sein du réseau sémantique. Et donc, il faut savoir que cette propagation est complètement involontaire, automatique, et qui se réalise vraiment en quelques millisecondes. Par exemple, grâce à l'activation du réseau sémantique, la perception d'un mot, comme on a dit incendie, va faciliter l'accès au sens d'un autre mot qui lui est sémantiquement associé. Par exemple, incendie va faciliter l'accès au sens du mot feu lorsque vous l'entendez dans la phrase, hein, par rapport au mot poire et un mot feu. Alors ça, c'est une expérience qui est très intéressante, puisque ici, hein, c'est une expérience qu'on appelle l'étude d'amorçage sémantique, où en fait on va demander aux gens de porter attention que au deuxième mot qui est présenté, feu, poire et feu. On leur présente des associations de mots de manière très très rapide, et on va leur dire, vous devez décider si le deuxième mot de cette paire de mots est un mot de la langue française ou pas. Alors qu'est-ce que vous allez dire ici? Donc, et vous entendez par contre au début, vous voyez le mot incendie. Mais vous voyez, on ne dit pas aux gens de porter attention au mot incendie. Hein, on leur dit de porter attention qu'au deuxième mot. Et donc là, si par exemple je vous présente ces associations, incendie-feu, incendie-poire, incendie-pufule, vous allez décider que le mot pufule n'est pas un mot légal dans la langue française, hein, il n'existe pas. Mais le simple fait que, et vous allez dire que le mot feu et le mot poire est un mot de la langue française. En revanche, la rapidité avec laquelle vous allez décider, hein, quel est le sens, hein, du mot et s'il appartient à la langue française est déjà influencée par le mot qui a précédé. C'est-à-dire le mot incendie a constitué un contexte qui a activé déjà la représentation, hein, des mots qui viennent. Donc on sent comment un contexte immédiat va influencer l'activation sémantique, le traitement des mots. Et on sait que cette activation peut se réaliser de manière, même si le mot, un premier mot, est présenté de manière subliminale. Et ça, c'est des découvertes très très récentes et très très étonnantes, hein, puisqu'il montre que un mot qui est projeté de manière subliminale, des informations que nous recevons de manière subliminale, vont exercer une influence sur le traitement des informations que nous allons percevoir de manière consciente après. Là, ici, par exemple, si vous présentez le premier mot « incendie » avant, et là, les participants à l'expérience vont vous dire « mais non, je n'ai pas vu de mot « incendie », hein ». Mais on voit qu'ils ont cet effet de facilitation pour le mot « feu » par rapport au mot « poire », ce qui montre qu'il a eu une diffusion de l'activation de la mémoire sémantique qui a facilité donc l'accès au sens d'un mot, et cette diffusion se fait en vertu d'une perception complètement subliminale, inconsciente au sens du mot. J'ai indiqué, même si on les présente de manière subliminale, ils vont susciter une activation dans l'amygdale, qui est une structure qui est très fortement impliquée dans le traitement de l'émotion. Ça veut dire que même si, lorsque vous percevez des informations, en fait, vous avez une perception subliminale, inconsciente, hein, des informations, informations émotionnelles, ils font déjà, ils suscitent une réaction émotionnelle, puisqu'ils font activer déjà certaines structures cérébrales qui codent, hein, pour des émotions. Donc cette dynamique entre des rapports, entre des processus conscients, inconscients, reste bien sûr à préciser, puisque ce sont des découvertes très très récentes, mais on sait désormais qu'une émotion qui survient inconsciemment à partir d'un simple amour peut modifier la façon dont nous percevons consciemment les choses et la façon dont notre cerveau traite, hein, les informations et l'accès au sens. Hein. Alors, concernant la compréhension des phrases, si on enregistre ici notre électroencéphalogramme pour chaque mot individuel dans la phrase, par exemple, c'est mon premier jour au travail, hein, donc on va voir que chaque mot va s'intégrer très bien au sens du contexte de la phrase. Par contre, si je me dis la phrase « il étale le beurre avec une chaussette », donc là, vous avez perçu une incongruité, c'est un petit quelque chose qui n'est pas possible pour vous d'intégrer le mot « chaussette » avec le contexte qui précède. Donc, la perception de cette incongruité de nature sémantique, puisque le mot ne va pas avec le contexte qu'il a amené, va être indiqué par une composante ici négative de nouveau, hein, qui va nous permettre de savoir est-ce que vous avez traité le sens de la phrase, puisque il y a par exemple dans une grosse pathologie où ça permet d'étudier justement la nature de compréhension, des postures de compréhension du sens chez les personnes qui ont des difficultés de communication et dont on ne sait pas, est-ce qu'ils ne comprennent pas vraiment le message linguistique, hein, tel qu'il est, ou c'est difficilement expliqué par d'autres facteurs. Les phrases, ici, je vous donne un exemple avec des phrases qui ont un sens conventionnel, par exemple, comme la phrase « il a les yeux plus gros que le ventre », hein. Et si on compare ces phrases avec la phrase « il a les yeux plus gros que les mains », c'est une présentation littérale qui n'est pas forcément codée, et « il a les yeux plus gros que la porte », une phrase qui n'a pas de sens, vous allez voir un petit escalier d'activation, hein, cérébrale qui survient à peu près à 400, entre 300 et 400 millisecondes après la perception de ces mots, hein, de ces incongruités de traitement du sens, hein, de ces mots. Par exemple, on a la plus faible activation pour les métaphores conventionnelles, comme il a des yeux plus gros que le ventre, une activation un peu plus élevée par une phrase comme il a des yeux plus gros que les miens, une activation énorme qui signale ici, hein, que quelque chose ne va pas, hein, dans le contexte de la phrase. Alors vous voyez, les métaphores ici, alors que c'est quand même vécu en sens abstrait, montrent que leur activation était vraiment facilitée par rapport au traitement des phrases latérales, hein, ce qui constitue un objet de départ dans beaucoup de recherches en linguistique, hein, par exemple sur la nature de traitement de sens abstrait, hein, des métaphores par rapport au langage appelé langage direct, littéral, hein, par exemple. Alors ici, ces études montrent que l'accès au sens des significations des métaphores conventionnelles se fait beaucoup plus rapidement de l'accès au sens des significations des phrases littérales ou des phrases incongrues, par exemple, puisque ce processus d'accès va susciter l'activation de la mémoire sémantique que vous connaissez déjà, et donc du coup on va directement activer, hein, ces représentations codées, hein, dans notre mémoire, et donc on va se soustraire d'une analyse détaillée, en quelque sorte, notamment de la phrase. En revanche, on sait que des métaphores nouvelles vont susciter une activation très différente des métaphores conventionnelles. Par exemple, les métaphores conventionnelles vont susciter de manière prédominante l'hémisphère gauche, hein, l'hémisphère dominant pour le langage, alors que si vous devez traiter le sens des métaphores très abstraites, hein, comme par exemple une métaphore qu'on va voir un peu plus loin, ses cheveux sont une rivière tiède, vous avez pu accéder à intégrer le sens de cette phrase, hein, par une activation aussi de votre hémisphère droit. On sait par exemple que des ruptures de nature grammaticale, par exemple, hein, si vous percevez une rupture grammaticale dans la phrase, elle va expliquée par certaines composantes, et que la perception de déviation sémantique, que quelque chose ne va pas dans une phrase, et grammaticale chez l'enfant, vont se faire à partir de l'âge, par exemple, de 3 ans, où on va observer le même pattern d'activation, en quelque sorte, le même type hein, de d'onde cérébrale que ce qu'on observe chez l'adulte. Alors, ce qui est très intéressant d'observer, c'est que comment le cerveau va traiter des incongruités qui sont d'une autre nature que des natures sémantiques, par exemple, et qui sont en contre, qui vont en contre-sens en quelque sorte avec nos représentations générales du monde ou d'une situation particulière, hein, donc des représentations de nature pragmatique. Par exemple, si vous participez à une expérience où vous allez voir trois types de phrases. Pour aller à la neige, j'apporte mes escarpins. Pour aller à la neige, j'apporte mes raquettes. Pour aller à la neige, j'apporte mes nuages. Alors, votre tâche serait de décider seulement si ces phrases sont faites de manière correcte, grammaticalement, en français. Vous allez voir pas grammaticalement, mais aussi sémantiquement, en français. Vous allez voir que les deux premiers types de phrases hein, peuvent avoir des représentations, en quelque sorte, sémantiques correctes, mais vous allez voir que, par exemple, la première phrase, pour aller à la neige, j'apporte mes escarpins, vous allez avoir beaucoup plus de difficultés à décider est-ce que cette phrase est correcte ou pas, puisqu'elle est sémantiquement correcte, mais elle ne va pas avec des représentations que vous faites d'une situation particulière. Et ça veut dire que vous aussi, hein, vous avez développé déjà au cours de votre développement ce type de représentation. Vous savez très bien que si on va à la neige, hein, pour par exemple faire du ski, etc., on ne va pas faire du ski avec des escarpins. Hein. Et donc, on voit que ce type d'incongruité de nature pragmatique suscite le même type d'activation que des incongruités de nature proprement sémantique. Et enfin, si vous voyez des phrases de type les trains hollandais sont rouges, les trains hollandais sont bleus ou les trains hollandais sont sucrés, la seule phrase qui va vous choquer ici, c'est les trains hollandais sont sucrés. Ce qui va susciter cette composante ici, à 300-400 millisecondes, tout de suite votre cerveau a déjà perçu l'incongruité de cette phrase. Mais vous avez des connaissances générales du monde de français, et donc vous ne savez pas forcément quelle est la couleur des trains hollandais. Cependant, en hollandais, qui sait que par exemple les trains chez eux sont bleus, il va être très très choqué par la première phrase, les trains hollandais sont rouges, et s'il doit décider la signification de cette phrase, est-ce que cette phrase est correcte ou non, il va avoir beaucoup plus de mal à décider qu'elle est correcte, puisqu'elle est sémantiquement, syntaxiquement correcte, mais elle ne correspond pas avec ce qu'il connaît de son monde à lui. Donc on voit bien que nous traitons l'information, nous créons du sens à partir du contexte linguistique, mais aussi à partir du codage que nous avons des informations de ce qui nous entoure, notre propre expérience sur le monde et notre propre expérience des éléments, qui en fait des choses qui appartiennent à notre culture. Et enfin, je vais terminer en illustrant un fait très intéressant, c'est quel est un autre type d'information qui peut influencer notre nature de nos représentations sémantiques des phrases. Et ça, c'est une étude qui est très intéressante, qui s'interroge sur le fait de savoir que si le fait de savoir qui est l'auteur d'une phrase exerce une influence sur ma manière d'accéder, sur notre manière d'accéder au sens de cette phrase. Ça veut dire, si c'est moi qui vous dit une phrase, ou si c'est quelqu'un d'autre qui vous dit une phrase, est-ce que cela influence la capacité de votre cerveau, en quelque sorte, à composer du sens? Et donc, en fait, nous avons réalisé cette étude en se basant, en utilisant comme outil un type de langage qui est un langage très ambigu, comme les métaphores nouvelles, poétiques, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, en fait, nous avons proposé aux non-participants de décider si trois types de phrases, des métaphores, des phrases littérales et des phrases incongrues, avaient du sens. Hein. Et donc, ceci dans deux conditions. C'était absolument les mêmes phrases, mais on va les présenter dans deux conditions différentes. Par exemple, on va demander, on va dire aux participants, c'était des gens étudiants, que ces phrases sont composées de manière complètement aléatoire par un programme informatique informatique qui s'appelle K.O., qui a pris les mots du dictionnaire, qui les a mélangés et qui a créé des phrases. Donc, en fait, il n'y a pas ici une intentionnalité communicative, il n'y a pas d'intention à communiquer. Hein, donc, c'est un ordinateur qui a créé les phrases. Alors que si, dans une deuxième condition, on va dire hein, à ces jeunes que les phrases sont écrites par des poètes très très fameux, très célèbres, hein, et qu'ils doivent juger, on a mélangé les phrases des poètes avec les phrases de d'autres personnes, et ils doivent juger tout simplement si les phrases sont ensemble. Donc c'est absolument les mêmes phrases qu'on présente, mais on leur dit qu'ils sont écrits par des situations différentes. Et donc l'hypothèse que nous avons émise, c'est que selon que le locuteur soit un poète ou un ordinateur, soit qu'il ait ou non une intentionnalité de communiquer, hein, ça veut dire que c'est nous qui l'inférons, c'est nous qui l'imaginons, les faits, nos processus cérébraux et notre manière d'accéder au sens de ces informations, en particulier des métaphores, hein, qui sont toujours un sens ambigu, va être différemment mobilisé. Et donc là, par exemple, pour les métaphores, hein, donc les gens devaient juger est-ce que les phrases ont un sens ou pas. Et donc pour les métaphores, vous avez ici, vous avez les phrases de type ses cheveux ondulés sont une rivière tiède ou ses mains sont des camélias blancs. Hein, qui sont des métaphores qu'on a extraits de la poésie française. Donc, qu'est-ce que nous avons observé? Premièrement, que les sujets ou les participants dans nos études jugent plus souvent que les métaphores ont un sens lorsqu'ils pensent qu'elles sont produites par un poète que lorsqu'ils pensent qu'elles sont créées par un ordinateur. Ça veut dire que d'emblée, le simple fait d'inférer une intentionnalité à communiquer, par exemple à un poète, on pense que quand il a écrit ses phrases, ça veut dire qu'il veut dire quelque chose. Donc on va juger, on va faire plus les mêmes types de phrases vont être considérées comme beaucoup plus significatives, comme ayant plus de sens que si on présente absolument les mêmes phrases, mais on dit c'est un ordinateur qui les a fait, vous voyez. Donc ça, c'est une expérience, un résultat qui est très très intéressant. Par contre, cette influence de l'intentionnalité communicative ne s'exerce pas pour les phrases littérales. Il y a un petit effet pour les phrases en gros. C'est que même si on dit n'importe quoi, si on pense que ces phrases sont écrites par un poète très célèbre, on va chercher, hein, on va avoir tendance à les considérer comme beaucoup plus des phrases qui vous diraient quelque chose. Et en même temps, la rapidité de notre jugement sémantique va être également influencée par le fait d'inférer une intentionnalité communicative à l'autre. Et enfin, nos processus cérébraux, aussi la manière dont le cerveau va traiter, va élaborer le sens de ces phrases, des mêmes phrases, mais en fonction de l'intentionnalité communicative, va également être différent. Donc, ce qui montre ici les différentes ondes cérébrales que nous avons et qui, on voit très très rapidement comme ça, qui diffèrent entre les deux conditions expérimentales. Donc, ces illustrations ont permis donc de montrer que, au cours du traitement du langage, le cerveau va intégrer toutes les informations de nature lexicale, grammaticale, sémantique, émotionnelle, pragmatique, afin de créer du sens. C'est suivi de manière extrêmement rapide. Et que tout établissement du sens, donc là, je reviens à la citation que je vous ai présentée tout à l'heure, tout établissement du sens va reposer sur ce tissage de relations entre ces différents éléments qu'on a vus, qui exercent chacun une influence sur l'accès aux significations. Et le sens, le sens est une mise en contexte, une mise en réseau d'informations, de significations et des connaissances, et tout cet accès, l'émergence de sens, va être une synthèse très singulière, très complexe et singulière en même temps, de fonctions et de processus au niveau cognitif et au niveau cérébral, qui vont toujours s'inscrire dans une histoire psychologique, dans une histoire individuelle de chaque individu. Et voilà comment, à partir à la base de ce type de travaux, que en psychologie, ces recherches vont avoir une application dans différents domaines de la psychologie, notamment ici un nouveau domaine en pleine émergence, la neuropsychopathologie cognitive, où on va étudier certains dysfonctionnements, certains symptômes cliniques observés par exemple dans certains troubles psychopathologiques, comme aussi dans certains troubles neurologiques ou certaines difficultés chez les enfants, par exemple, qui ont des vécus avec des fonctions cognitives et des fonctions cérébrales, et grâce à ces recherches, inventer, trouver. ceci est une autre histoire. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.